Le journal, Sarah Massy.
Bonjour. La Haute École Arc, victime d'une attaque informatique depuis cet après-midi, sa direction a décidé de couper tous ses serveurs et messageries par précaution. Des investigations sont en cours. Les habitants du Landron peuvent à nouveau boire l'eau du robinet alors que des mauvaises odeurs avaient été constatées hier. Les tests réalisés montrent qu'aucun problème bactériologique n'a été détecté sur le réseau. Entraîneur assistant à l'OGC Nice en première division française de football. C'est le nouveau job de Christophe Moulin. L'entraîneur neuchâtelois intègre un staff technique très large autour de Lucien Favre. Encore quelques averses dans le ciel de la région demain matin. L'après-midi s'annonce plus ensoleillé. Les températures restent estivales. La Haute École Arc est coupée du monde sur le plan informatique. Son service de communication informe que l'institution est victime d'une attaque informatique depuis cet après-midi sur ses différents sites dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Berne. De manière préventive, tous les accès au serveur et à sa messagerie ont été coupés. Mais il reste beaucoup d'inconnus à ce stade et les équipes informatiques sont à pied d'œuvre pour déterminer l'ampleur du dommage causé par les hackers. Les précisions de Brigitte Bachelard, directrice générale de la Haute École Arc.
On a eu des suspicions de problèmes effectivement ce week-end et on a eu sur le conseil du Centre National de Cyber Security, par précaution, on avait coupé les accès VPN en pensant que ce n'était pas très important comme attaque, enfin éventuellement comme attaque, on n'était même pas sûr. Et puis ce matin, en effet, on a eu des messages qui nous ont clairement dit qu'un groupe aurait accès donc à des données. Mais à ce stade, on ne sait pas encore quelles sont la nature de ces données. On n'est pas sûr que ce soit vraiment un accès à nos fichiers, plutôt à des fichiers qui seraient attachés à des messages, donc ce qui serait quand même moins grave parce que c'est toujours ennuyeux quand on va sur les vrais fichiers qui sont dans les serveurs. Donc voilà, on en est là. On n'a pas beaucoup plus à ce stade d'informations, mais par précaution, le Fonds national de sécurité nous a proposé de couper tous les accès. Ces messages, on les a laissés actifs, le temps d'informer toute la communauté qu'on allait faire cette coupure.
Des propos recueillis par Leonard Reichen. Une cellule de crise est prévue demain matin pour faire un premier point sur l'ampleur de l'attaque et des mesures à prendre. Et cette fois, c'est une bonne nouvelle. L'eau du Landron peut de nouveau être consommée. Les résultats des analyses révèlent qu'aucun problème bactériologique n'a été constaté sur le réseau d'eau potable. La commune avait annoncé hier que l'eau du robinet dégageait une mauvaise odeur. Les explications de Yann Esler.
En effet, alors qu'on ne savait pas si l'eau était impropre ou non à la consommation, l'exécutif, lui, a préféré conseiller aux citoyens de ne pas la boire avant que des analyses soient effectuées. Finalement, ces dernières démontrent qu'à aucun moment la qualité de l'eau n'a été source de danger pour la santé de la population. Les autorités avancent encore que si certaines odeurs sont persistantes ou que si l'eau n'est pas totalement claire, il est préférable de la faire bouillir avant de la consommer. On se souvient qu'il y a une année à La Tène, presque jour pour jour, la population avait dû utiliser des bouteilles en plastique pendant 5 jours à la suite de la présence d'une bactérie. Cette fois, cela ne sera donc pas le cas, mais des rinçages du réseau d'eau sont toujours en cours au Landron pour garantir la transparence de l'eau et éliminer ses odeurs.
Merci Yann. Le canton de Neuchâtel sera associé aux réflexions sur la FUS Vaud. À la suite de nombreux dysfonctionnements, le canton de Vaud réfléchit à internaliser la fondation Urgence Santé Vaud. Neuchâtel continuera par ailleurs d'acheter les prestations actuelles. Depuis 2015, le 144, les appels d'urgence pédiatrique et de la garde médicale sont gérés par la fondation Urgence Santé, basée à Lausanne. Le NIF ne saute pas encore le pas du cashless. Le paiement par carte n'est pas disponible dans tous les cinémas où sont projetées les œuvres du Festival international du film fantastique qui se tient en ce moment à Neuchâtel. La manifestation favorise pour l'heure un système hybride, à l'inverse de Festineuge qui n'autorise désormais que le paiement par carte, ou la fête des vendanges qui mise sur un bracelet rechargeable, Audrey Mondy.
Oui, Sarah, les moyens de paiement sur les différents sites du NIF sont pour l'heure relativement hétérogènes. Concrètement, dans les salles de cinéma, il est possible d'acheter ses billets à choix en cash ou par carte. Par contre, les boissons et la nourriture du type pop-corn qui sont vendues au même endroit ne peuvent être réglées qu'en cash. Résultat, notre rédaction a constaté que ce week-end, de nombreuses personnes se sont retrouvées embêtées au moment de payer car elles ne disposaient pas de monnaie suffisante. Samedi soir, en cette chaude soirée d'été où beaucoup de Neuchâtelois étaient de sortie, la plupart des bancomates du centre-ville ont vite été en rupture de stock et ne délivraient plus que des billets de 1000 francs, selon le témoignage de certains festivaliers. À l'heure où le cash se fait de plus en plus rare dans de nombreux porte-monnaies, le NIF n'est pourtant pas encore prêt à sauter le pas. Contacter les organisateurs explique que les machines à cartes sont disponibles uniquement dans les caisses principales du festival, c'est-à-dire celles qui permettent de vendre des billets, pour des raisons logistiques. Ils relèvent par ailleurs que ce système est en place depuis plusieurs éditions et soulignent qu'ils n'ont pas constaté de problème majeur. Le festival précise encore qu'une réflexion au sujet de différents systèmes de paiement est en cours, mais pour l'édition actuelle, c'est le système hybride qui a été privilégié. Pensez donc à passer au bancomat avant de vous rendre dans les différents cinémas de la manifestation.
Merci Aude, et on rappelle que le NIF, c'est jusqu'à samedi à Neuchâtel. Un bilan positif du côté policier, également au promo du Locle. Aucun événement particulier n'est venu perturber les festivaliers. Les forces de l'ordre avancent qu'il n'y a pas eu d'acte de délinquance et que personne n'a dû être pris en charge par les services de secours. Les quelques délits constatés l'ont été au volant. Les contrôles routiers réalisés par la police ont mis en lumière 6 personnes sous l'effet de l'alcool sur 163 automobilistes contrôlés. L'aéroport de Zurich est prêt à affronter la vague estivale qui s'annonce importante. L'opérateur du tarmac zurichois a indiqué aujourd'hui avoir suffisamment de personnel pour faire face à la recrudescence du trafic aérien cet été. Il n'est pas facile de parler de reconstruction de l'Ukraine alors que des missiles russes frappent ce pays. Propos tenus aujourd'hui à Lugano par la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga au premier jour de la conférence mondiale sur l'Ukraine. Le président de la Confédération, Ignacio Cassis, a accueilli ce matin les représentants d'une quarantaine d'États en compagnie du premier ministre ukrainien. Denis Shmigal a exprimé des pistes pour financer les milliards nécessaires pour son pays, comme l'utilisation des fortunes bloquées des oligarques russes. Pas si simple, selon Ignacio Cassis.
La question de savoir si l'argent gelé actuellement à cause des sanctions et qui appartient aux oligarques pourra être confisqué, donc désapproprié des propriétaires pour en faire autre chose, évidemment, c'est une discussion qui nécessite un large débat public. J'ai vu que le Canada a déjà fait des pas très concrets dans ce cas-là, mais en même temps, il dit que ce sera les tribunaux qui devront voir si c'est compatible avec nos constitutions. Il s'agit d'exproprier de l'argent de leur légitime propriétaire. Ceci nécessite une base légale et constitutionnelle parce que la propriété est protégée. Mais évidemment que ce chemin mérite une discussion approfondie qui est d'ailleurs déjà en cours.
Des propos recueillis par Frédéric Nejad Toulami, notre envoyé spécial à Lugano. Puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé en visioconférence de Kiev en début d'après-midi. Il a dénoncé la destruction systématique opérée par la Russie et un terrorisme de missiles contre les Ukrainiens. Le président estime par ailleurs que la reconstruction de l'Ukraine doit être l'affaire de tous les pays. Pas de répit sur le terrain. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné aujourd'hui à ses forces de poursuivre leur offensive dans l'est de l'Ukraine. Un ordre qui intervient après la conquête hier de l'intégralité de la région de Lugansk. Et les 30 pays membres de l'OTAN lanceront demain le processus de ratification pour les adhésions de la Suède et de la Finlande. Une décision historique dictée par la guerre menée par la Russie en Ukraine. Au Danemark, le suspect de la fusillade de Copenhague a été placé en détention psychiatrique. La santé mentale du tireur de 22 ans est désormais au cœur de l'enquête. L'attaque est commise principalement avec un fusil a fait 3 morts et 30 blessés, dont 4 graves. L'effondrement d'un glacier dans les Alpes italiennes est lié au réchauffement climatique. Déclaration faite aujourd'hui par Rome. La catastrophe a fait au moins 7 morts et 8 blessés selon un nouveau bilan.
Il est 18h09. sport.
Christophe Moulin est à pied d'œuvre depuis une semaine sur la Côte d'Azur. L'entraîneur de football neuchâtelois a été engagé comme assistant de Lucien Favre à l'OGC Nice en Ligue 1, la première division française. Son contrat porte sur 2 saisons. Après s'être occupé durant 7 ans de la formation au sein de l'Association Suisse de Football, Christophe Moulin relève à 51 ans un défi totalement différent au sein d'un staff technique très large. Outre les préparateurs physique et le staff médical, 3 entraîneurs adjoints assistent Lucien Favre. Ils n'ont pas encore de rôle bien défini, mais le travail ne manque pas, selon Christophe Moulin.
Disons qu'on est tous des entraîneurs, les 3, Yann Péco, Fred Joria et moi. Donc c'est vrai que Lucien Favre définit en quelque sorte les lignes directrices de l'entraînement. Il parle aussi de ce qu'il aimerait vraiment voir. Et puis après, il laisse aux adjoints la responsabilité de conduire l'entraînement, arbitrer les jeux, des choses comme ça. Lui, il est toujours derrière en observation. C'est clair qu'après, quand on sera dans une phase plus proche de la compétition, il y aura des parties tactiques où lui sera très, très impliqué. Donc, c'est clair que Lucien aime aussi être actif sur le terrain, mais on s'entraîne tous les jours. Il y a beaucoup de choses à donner aux joueurs. Et puis, si on peut se passer le relais de temps en temps, certains animent, d'autres observent. Je pense que c'est important dans cette phase-là. Ensuite, on espère se qualifier pour la Conference League, les phases de poule, parce qu'on a des barrages. Et puis, il y aura des matchs très, très rapprochés avec des matchs le dimanche, le jeudi, le dimanche. Donc, il y a aussi toute la préparation des adversaires. Et puis là, vous n'êtes pas 2-3 quand vous êtes 3 adjoints pour justement analyser l'adversaire en amont plutôt que toujours stresser 3 jours avant, en fait.
Les propos recueillis par Marcel Neuenschwander. Christophe Moulin connaît Lucien Favre depuis longtemps. Il avait entamé sa carrière de formateur au sein de la relève de Neuchâtel-Xamax en 1996 après avoir été sollicité par le coach vaudois. Et puis encore cette nouvelle, le départ de Ronaldo de Manchester United ne relève plus de la science-fiction. La star de football portugaise a séché la reprise de l'entraînement aujourd'hui pour des raisons familiales, explique le club anglais. Ronaldo était revenu tel l'enfant prodigue à Manchester United la saison dernière, le club où il a explosé au plus haut niveau.